Chers auditeurs, Marie-France Guimaroche est très heureuse de vous retrouver dans le cadre de son émission L'écho de ma commune. Je reçois aujourd'hui dans nos studios du Rocas de Radio Grand Ciel Alain Fillon, maire de Luret, vice-président de l'agglomération drouaise. Non, j'y arriverai jamais. Vice-président
de la communauté d'agglomération.
Voilà, la communauté d'agglomération. Merci Alain. Je suis très heureuse de te recevoir parce que j'ai encore des tas de questions à te poser. Tu étais déjà venu récemment dans nos studios et nous allons aborder aujourd'hui des sujets différents. Je vais commencer par une petite phrase qui m'a beaucoup plu quand je l'ai entendue il y a quelques temps. J'ai trouvé ça très humoristique et il y a sans doute peut-être une part de vérité là-dedans. C'était Monsieur Léniel, vice-président de l'Association des maires de France, qui disait à la télévision dans les quatre vérités de Télématin, parlant du gouvernement, enfin en parlant des gouvernements, ils nous ont souvent fait les poches en nous caressant les chines.
Oui, c'est une phrase qui est digne d'André Léniel. Je pense que ce qu'il a voulu exprimer, c'est vrai que souvent, pour des causes nobles qui se justifiaient, l'État en a profité aussi pour diminuer un petit peu son engagement dans ses responsabilités qui sont régaliennes, qui sont les siennes depuis très longtemps.
Mais
beaucoup d'exemples.
Il mettait quand même les formes parce qu'il vous caressait les chines en même temps.
Oui, caresser les chines, c'est-à-dire, bon, on pourrait le dire d'une autre manière, hein, pour faire... disons, accepter un petit peu la décision. On l'a vécu sur les règles de l'urbanisme à un moment donné. L'État s'est désengagé de ses responsabilités. Aujourd'hui, c'est des compétences qui sont réparties ailleurs, notamment, par exemple, dans la région de Rouest, c'est la communauté d'agglomération qui a récupéré cette compétence. On l'a vu aussi dans la mise en place du RSA. Le RSA pouvait être quelque chose qui était reconnu comme positif, intéressant pour
le
aider.
RSA.
Oui, c'est le revenu de salaire minimum pour les gens qui malheureusement sont au chômage. Bon, on peut considérer que effectivement quelqu'un qui perd son emploi brutalement avec des charges importantes, etc., mérite au moins que la collectivité lui vienne en aide d'une manière solidaire. Mais on a vu que rapidement l'État s'est désengagé dans cette affaire-là.
Et alors, aujourd'hui, qui a récupéré, enfin si on peut dire, le paiement du RSA, à qui ça vient maintenant?
Le paiement pour une forte partie, l'État continue à payer bien sûr, mais sinon ce sont les départements hein, qui ont la prise en charge de cette affaire-là l'urbanisme auquel je faisais allusion tout à l'heure. Aujourd'hui, ce sont les communes en fin de compte qui payent leur urbanisme, soit parce qu'elles sont suffisamment étoffées pour avoir un service urbanisme, Dreux, Vernouillet, ou si elles ne sont pas étoffées, elles ont un service qui les aide dans leurs décisions, attribuer un permis de construire, ne pas l'attribuer, etc. Il faut avoir de la logistique humaine.
Est-ce qu'il y a aussi des avocats qui sont partie prenante et qui sont employés, si on peut dire, par les services administratifs des mairies?
Pour les grandes mairies, c'est indéniable. Par exemple, la communauté d'agglomération du Drouet a à sa tête un juriste qui permet de pouvoir se prononcer des avis en direction des communes. Donc voilà, l'État se désengageant, c'est encore vrai aujourd'hui et c'est la préoccupation, puisqu'on est à l'heure du congrès des maires de France, du 100e congrès des maires de France, c'est l'inquiétude des maires par rapport au devenir de la compensation de la taxe d'habitation. Quant à caresser les chines pour faire les poches, caresser les chines, oui, quand on nous explique que la taxe d'habitation est probablement probablement l'impôt local le plus injuste. Quand je dis le plus injuste, bon, les impôts sont souvent ressentis comme étant injustes. Sauf que à un moment donné, si on veut donner un petit peu de bien-être, il faut quand même, ça a un coût et donc il faut pouvoir le financer.
Quel est l'organisme qui le calcule, cet impôt ?
Pour la taxe d'habitation, Alors il y a deux niveaux d'intervention. Il y a les services de l'État puisque la taxe d'habitation est calculée en fonction de l'espace du logement, de la grandeur du logement.
Et ça intervient aussi au niveau du revenu du ménage ?
Non. Aujourd'hui, la taxe d'habitation n'est pas calculée par rapport aux revenus, c'est-à-dire qu'il est calculé uniquement par rapport à la surface habitable, c'est-à-dire que si on est seul habitant un château, on paiera énormément de taxes d'habitation parce que le domaine est très important, l'habitation est très grande, alors qu'étant seul, on peut peut-être avoir des difficultés financières, etc., de revenus en tout cas, alors qu'une famille de 5 personnes sur un espace beaucoup plus restreint, en proportion, paiera beaucoup moins de taxes d'habitation.
Ça mais me fait une penser fois... un petit peu au problème du champ de patates à l'île de Ré
oui,
qui payait.
Mais ce qu'on calcule, c'est une variable, c'est un paramètre, ce qu'on appelle la valeur locative. Ça, c'est les services de l'État. On vous dit, vous avez un bien immobilier, vous habitez à un endroit donné, cette habitation, si elle était louée aujourd'hui, ce qui d'ailleurs n'est pas une vérité, hein, mais en tout cas, si elle était louée, vous rapporterez tant par an. Et quand on fait les calculs, ce n'est pas tout à fait vrai. Et à partir de là, la collectivité, deuxième intervenant, la commune, entre autres, la commune définit un pourcentage sur lequel qu'elle va prélever sur cette valeur locative. Et ça s'appelle la taxe d'habitation. Pour faire clair, si j'ai une valeur locative de 100 euros, c'est juste à titre d'exemple, ce n'est pas les montants donnés. Si j'ai une valeur locative de 100 euros, dans la commune X, on dira la taxe d'habitation est de 11%, je prélèverai à celui qui habite le logement, je lui prélèverai 11 euros. Dans la commune d'à côté, on va prélever, si c'est 17%, on va prélever 17 euros par rapport au montant de 100 de la valeur locative.
Oui, effectivement, ça n'a rien à voir avec la propriété parce que, en fait, les locataires paient également la taxe d'habitation.
Voilà. Alors, le locataire ne paie que la taxe d'habitation. Le propriétaire résident, en tant que résident, il paye la taxe d'habitation et il paye aussi, puisqu'il est le propriétaire, le bien lui appartient, il paye la taxe foncière. Foncière patine.
Mais il y a deux impôts. Il y a la taxe d'habitation et l'impôt foncier.
Oui, alors quand on parle de l'impôt foncier, il y a deux sortes d'impôts fonciers.
Oh là là.
Il y a deux sortes d'impôts fonciers. Il y a le foncier bâti, la maison, et il y a le foncier non bâti.
Le terrain.
Les terres. Les terres. D'ailleurs, un même propriétaire, s'il a beaucoup de terrain sur sa propriété, il sera assujetti au foncier bâti pour sa maison. Et comme il a, alors je connais pas le, je n'ai pas la surface, la base, et comme il a beaucoup de terrain, il paiera aussi une fraction de foncier non bâti.
Alors que le foncier non bâti est, lui, non constructible.
Ça dépend. Ça dépend. On peut avoir des terrains sur lesquels on paie du foncier non bâti, et ces terrains peuvent ne pas être constructibles. Et s'ils sont constructibles, choix de la commune de maintenir le taux, c'est-à-dire qu'on a un terrain constructible ou non constructible, on paie le même impôt. Certaines communes, et c'est la loi qui le permet, sur des terrains qui sont du foncier non bâti, mais à valeur supérieure, puisque constructible, la commune peut imposer un taux supérieur.
Merci de ces précisions, parce que c'est très difficile à comprendre tout ça, et vraiment, tu éclaires nos lanternes, Alain. Alors, revenons maintenant à un autre problème, qui est celui, ce n'est pas un problème, c'est un fait, notre pays a à peu près 25% de fonctionnaires. Dans les toutes branches confondues. Il y a un problème d'absentéisme qui est de 7,5% de plus en 5 ans. Est-ce que tu penses qu'il y a d'abord un problème de on se sent mal dans ce qu'on fait, on n'aime pas notre travail, on a beaucoup de difficultés, sans parler bien sûr des difficultés qui peuvent survenir, de maladies, d'autres problèmes, par exemple de burn-out. J'ai fait des émissions là-dessus avec des spécialistes qui sont très inquiets de ce développement de situation. Il paraît que le burn-out explose. Est-ce que là, ça vient directement de ça ?
Non, je pense que deux choses. Tout d'abord, quand on parle des fonctionnaires, il faut bien rappeler qu'aujourd'hui, enfin, en France, il y a trois types de fonctions publiques. Hein. Il y a la fonction publique d'État, les professeurs, l'enseignant notamment. La fonction publique territoriale, qu'on connaît bien, sont les employés des collectivités territoriales, les mairies, les départements. Et puis, il y a la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire le personnel qui travaille dans le milieu médical, le milieu hospitalier. Je ne reviens pas sur les paramètres que tu as avancés pour tenter d'expliquer l'absentéisme au niveau de ces trois structures, parce que l'absentéisme existe dans ces trois structures. Ensuite, il y a des situations un peu particulières et qui dépendent à la fois de la fonction publique, j'en suis pas certain, je pense pas que les variations soient importantes, mais qui vont varier d'un lieu à un autre. Je m'explique. On peut être en milieu hospitalier, si on prend la fonction publique hospitalière, être dans une structure où il n'y a pas de problème de personnel, j'entends de personnel en termes de nombre de personnel, et où la mission peut être remplie, peut être exercée dans des conditions, on va dire, satisfaisantes par rapport à des ratios, des paramètres, nombre de patients, nombre de personnel, etc. Il y a d'autres endroits où, alors aujourd'hui en France, il semblerait que ça se dessine comme étant le milieu hospitalier où le Et pour des raisons budgétaires aussi, on a restreint énormément le nombre de personnel et où le fonctionnement d'un service est bien souvent sur le fil du rasoir quant au nombre de personnel. Et ce nombre de personnes fait qu'à un moment donné, on a du mal à pouvoir prendre des congés, on a du mal à pouvoir prendre un certain nombre de choses et que la seule solution, ça existe, ce n'est pas une généralisation, mais ça existe, la seule possibilité pour pouvoir aussi avoir sa vie à côté, sa vie familiale, etc., eh bien, c'est d'être malade. Alors c'est un abus, on devient malade alors qu'on ne l'est pas réellement, mais sinon on sait qu'on va cumuler des jours de congé qu'on ne prendra jamais, parce que ces personnels-là sont des gens qui sont très... comment je veux dire, attirés par leur métier, qui aiment leur métier, qui veulent servir dans le cadre d'un service public, qui vont vraiment aider les patients, etc., et que bien souvent, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout en disant, il faut que absolument, si je ne suis pas là dans le service, si je ne suis pas présent, je sais que ça va désorganiser le service, et dans ce cadre-là, le service public n'est plus assuré dans de bonnes conditions, et notamment le traitement des malades.
Oui, mais alors les RTT ne servent à rien, parce que l'administration doit être obligée, je pense légalement, de les donner, ces RTT.
Oui, c'est pas toujours donné, Marie-France, les RTT, parce que la loi aussi administrative et fonctionnaire dit qu'en cas de besoin du service, de bon fonctionnement du service, on peut réquisitionner un fonctionnaire.
Alors, est-ce qu'ils sont payés dans ce cas-là, ces RTT ?
Dans ce cas-là, ils doivent être rémunérés, mais ça dépend de ce qui est écrit au départ dans la convention, quand les RTT ont été mis en place. Donc, ce que je veux dire, c'est que cet absentéisme... Faut pas non plus se voiler la face. Il y a un absentéisme volontaire, abusif.
Enfin, toujours est-il que ça coûte à la CNAM 7 milliards d'euros.
Oui. Alors, il y a aussi des possibilités. D'abord, je pense que dans ce cadre d'absentéisme exagéré, on va le dire comme ça, c'est-à-dire de gens qui, pour des raisons... qu'on peut comprendre de ne pas pouvoir prendre des congés, d'avoir une vie familiale, sont obligés de se déclarer malades. Donc là, c'est certain, on est dans le cadre d'un abus. Dans d'autres cas, il n'y a pas d'abus. On peut être aussi malade. On est dans une société, tu l'as dit tout à l'heure, en citant des situations burn-out, etc., où notre société n'est plus celle d'hier ou d'avant-hier, où tout va vite, où on a du mal à assumer un certain nombre de choses, où les problèmes de l'emploi, le problème familial, les familles familles, les familles sont souvent en situation compliquée et que le fait de se désengager de son travail, c'est aussi un autre moyen d'être présent dans la famille. Donc toujours est-il qu'il y a aussi des moyens. Je vois moi dans ma commune, par exemple, on parler de primes qui sont mises en place pour, voilà, les fonctionnaires ont droit à des primes, toutes les communes ne les instaurent pas, comme dans le secteur privé, et où on définit d'un commun accord que la prime pourra être versée, ne pas être versée dans certaines conditions. On en parlait encore tout à l'heure dans le cadre des services de l'agglomération. Par exemple, une femme qui est en congé maternité, doit-on lui maintenir sa prime de fin d'année ou pas sa prime? Alain Fillon dit oui, on lui maintient sa prime. Ça peut ne pas être le cas dans toutes les collectivités. Par contre, ce qu'on a mis en place, nous, dans notre commune et qui existe dans le milieu hospitalier, par exemple à Dreux, c'est que dès l'instant où on est le premier jour d'absence, est un jour d'absence qui va influer sur la prime. Alors, je comprends que ce n'est pas quelque chose qui est, forcément facile à comprendre. On peut être malade pendant une semaine parce qu'on ne peut pas mettre un pied par terre, on a une grippe carabinée, qu'importe. On a une pathologie qui vraiment fait qu'on ne peut pas aller au travail.
Mais on rétablit le premier jour de carence.
Oui, c'est-à-dire qu'on est absent 8 jours. La prime, si on est absent 8 jours dans l'année, la prime sera calculée, sera les 357-365e. On perd 8 jours. Il y a une moins-value qui est affectée. Moi, j'ai pas d'autre solution, mais j'en ai surtout discuté avec le personnel en leur disant, voilà, sinon on vous donne, voilà, vous avez droit à 10 jours. D'absence. Alors il y a les gens qui sont, parce que la nature humaine est ainsi faite, il y a les gens qui sont sérieux, qui disent « moi je ne suis pas malade, je ne m'arrête pas ». Puis il y a des gens qui vont dire « moi de toute façon j'ai droit à 10 jours d'absence, ben, je vais en profiter ».
Donc je les prends.
Je vais en profiter, je prends mes 10 jours. Il faut qu'il y ait aussi des complaisances dans d'autres organismes, hein, parce qu'on ne s'arrête pas, on n'est pas arrêté dans son travail comme ça sur un bon vouloir. Il faut qu'il y ait administrativement, médicalement, faut qu'il y ait des papiers qui soient en règle, qui soient signés. Donc moi j'ai trouvé que c'était le moyen le plus objectif car il est arithmétique.
Le plus juste.
Il est arithmétique. On peut le critiquer en disant oui mais quand on est absent 10 jours, 8 jours, parce qu'on a eu la grippe, on n'en a pas fait exprès. Vraiment, je ne pouvais pas mettre un pied. Mais au moins, les choses sont claires. Et on ne pourra pas être taxé de subjectivité ou de politique des copains, des coquins, etc. Voilà. Et, on s'aperçoit, enfin, moi, je sais que j'ai une commune et je ne le dis pas parce que c'est la commune de Luré, mais l'absentéisme est très, très bas. Alors, peut-être que on ne peut pas faire un parallèle entre des collectivités où il y a 17 emplois et des collectivités où il y a 500 emplois. Il est clair que les ratios ne vont pas être les mêmes. Mais je pense que c'est aussi, il y a un travail énorme de pédagogie et d'explication à faire. Quand on est fonctionnaire, on a des droits, bien sûr, comme dans tout métier, comme dans notre situation à tous. On a tous des droits, mais on a aussi, ça ne faut pas l'oublier, d'énormes devoirs. Et on les a notamment dans l'exercice de son activité professionnelle.
Et tu sais de quoi tu parles, puisque tu es fonctionnaire.
Tout à fait, tout à fait. Je ne veux pas parler de moi. Moi, j'étais fonctionnaire. Alors, l'absentéisme, je suis tout à fait à l'aise pour en parler. J'étais une fois, un jour, en 40 ans, j'étais absent une journée. Et encore, on voulait m'arrêter plus longtemps.
T'avais quoi, une rage de dents ?
Non, je m'étais cassé le doigt. Et pour une raison toute simple, je ne pouvais pas écrire. Je ne pouvais pas écrire au tableau parce que je ne pouvais pas tenir la craie. Et je suis retourné voir le chirurgien de l'hôpital en lui disant « mettez-moi une attelle qui me permette de pouvoir tenir la craie ». Bon voilà, je ne veux pas parler de moi, ce n'est pas un fait extraordinaire, mais néanmoins voilà. Donc l'absentéisme, on peut en parler. Mais l'absentéisme aussi, si j'étais absent une journée en 40 ans de service dans la fonction publique d'État, c'est aussi parce que j'ai eu la chance de ne pas non plus être malade.
Bien sûr.
Là aussi, bon, quand on est rattrapé par des pathologies sérieuses,
une bonne santé au départ.
Bien évidemment,
bien
hein,
sûr,
ça joue.
Bien sûr. Et en particulier, je voudrais faire un petit parler aussi de ce drame absolu qui est le nombre de suicides parmi les policiers. C'est depuis le début de l'année, je crois, absolument effrayant. Et ça, il y a certainement beaucoup de causes, d'ailleurs, à cette chose-là, mais c'est dramatique.
Il y a des causes, on ne va pas développer le sujet, mais il y a des causes bien évidemment purement professionnelles parce que ce métier devient de plus en plus difficile à pouvoir assumer, tu as raison.
Et les pompiers.
Oui, tout à fait. Je m'associe à cet hommage que tu rends à ces policiers, à ces pompiers et à bien d'autres.
Quel courage.
Qui nous permettent de nous sécuriser dans notre vie de tous les jours. Il y a certainement... dans l'exercice de leur profession, c'est devenu très, très compliqué. Et puis aussi parce que notre société a changé. Voilà, parce que la vie familiale, ce que peut-être des familles pouvaient accepter à un moment donné, il y a des décennies, aujourd'hui, les familles l'acceptent moins. Une femme, femme de policier à la maison avec des enfants, etc., accepte peut-être beaucoup moins que ce qui se passait avant, parce que ça se passait beaucoup moins, d'une manière beaucoup moindre, à savoir toutes ces agressions, toute
cette difficulté. Il y a une accumulation de choses.
Voilà. Également, il y a un moment donné, le phénomène de saturation et à partir de là, tous ces actes de découragement qui sont ultimes.
En tout cas, courage à tous et bravo et chapeau pour tout ce que vous faites, et les policiers et les pompiers en particulier. Nous allons aborder un autre sujet qui peut-être te touche. Tu étais professeur de quoi, Alain ?
Ah, j'ai enseigné l'analyse médicale.
D'accord.
Voilà, donc un sujet très... Je suis scientifique de formation. Voilà.
Alors, tu es particulièrement intéressé par la désertification médicale de nos régions, de nos villages et...
Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est vrai que, et plus particulièrement de la région centre, et plus particulièrement de l'Eure-et-Loir. Dans l'Hexagone, notre département d'Eure-et-Loir est certainement un des plus touchés par cette désertification médicale, qui est d'ailleurs un sujet très vaste, à la fois dans ses causes, mais aussi dans ses solutions à apporter. Rien n'est simple. C'est pas uniquement le numerus clausus qui résoudra l'augmentation.
Enfin, ça quand même, certainement,
ça pourra aider, mais ce n'est pas uniquement la seule explication sur la situation. Je sais qu'aujourd'hui c'est en train d'évoluer, tant mieux, simplement qu'il faut quand même conserver cette qualité du personnel médical, des médecins, de façon à ce qu'on ne peut pas augmenter le nombre et en même temps risquer de diminuer la qualité du service.
Il y avait une solution qui avait été préconisée, qui je crois vient de rentrer en vigueur, c'est la possibilité pour les non-thésards de s'installer. Ils avaient jusqu'à présent le droit de faire des remplacements et maintenant ils ont le droit de s'installer. Ça va peut-être ramener quelques facilités de... Dans cette chose-là.
C'est une des solutions. Au même titre qu'il y a des actes aussi qui sont faits par nos médecins généralistes et qui pourraient être faits par du personnel, quand je dis non médical, mais du personnel soignant. Je prends un exemple. Le vaccin antigrippal pourrait être fait par des infirmières sans avoir recours aux médecins. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la difficulté. Le médecin a un rôle, bien évidemment. Il a été formé et largement et longuement formé à cela, il y a aussi l'information donnée aux patients, il y a aussi le conseil donné aux patients, et ça ne s'invente pas.
Absolument. Alors nous changeons complètement de sujet et nous partons vers l'écriture inclusive. Je voulais avoir ton sentiment, j'ai celui de l'Académie française déjà, qui est farouchement contre, alors que je trouve que l'Académie française a quand même une vue un peu large de la chose et des mots, puisque chaque année, l'Académie accepte de nouveaux mots qui sont passés, j'allais dire, dans les mœurs. Mais là, elle bloque complètement là-dessus. Qu'en penses-tu ?
Oui, moi je pense que là aussi, il faut avoir une position qui est mesurée. Derrière ces affaires, je pense que c'est le droit des femmes. C'est le droit des femmes, le droit de... C'est bien de cela dont on parle. Qu'on mette demain, puisqu'on parlait des professeurs dont j'ai été, qu'on ne dise plus Madame le professeur, mais professeur eux.
Voilà. Ça lui donne plus de valeur
Donc je pense que c'est pas ça. C'est pas reconnaître l'existence et le droit des femmes simplement en mettant du féminin ou simplement en disant on peut plus dire que le masculin, quand il y a masculin et féminin, c'est le masculin qui remporte. Non, c'est une règle d'écriture que l'on utilise si ça heurte certains esprits et notamment certains esprits féminins, que ça heurte, qu'on le dise d'une autre manière, mais qu'on continue à appliquer les règles de notre grammaire. Dire qu'elles n'ont pas à évoluer, Moi, je pense que si, parce que
d'abord... Oh, elles évoluent par la force des choses.
C'est ce que j'allais dire, de par le fait que nous ne vivons pas dans le même monde et qu'il y a des, non pas des impératifs, mais des facilités pour pouvoir le faire.
Le français n'est pas une langue morte.
Tout à fait. Et ce que tu disais tout à l'heure, en fait, que est-ce que pour cela, une femme sera mieux reconnue parce qu'elle sera la professeure et non pas le professeur, qu'on mettra un « e » voilà, moi j'en suis pas du tout certain. Je pense que c'est pas là où c'est pas par ce biais-là que l'on peut définir les qualités d'une personne.
Nous avons un sénateur qui demande qu'on l'appelle Madame le Sénateur. Voilà pour la petite histoire.
Moi, disons que ça me convient bien. Ça me convient bien qu'on dise bien Madame, Madame le Sénateur.
Absolument.
C'est pas pour ça qu'on va mettre Madame la Sénateur E. Bon.
Donc cette écriture, le gouvernement vient de décider. Que ce ne serait pas inscrit dans la langue officielle.
C'est bien. C'est une décision sage. Moi, je pense qu'on ne peut pas, on peut pas modifier les règles de notre langue, de notre français, tous les quatre matins. Demain, on aura d'autres demandes à ce moment-là et qui viendront tout modifier. Qu'ensuite, si certaines personnes veulent, à titre personnel, écrire, lorsqu'elles écrivent, qu'elles en fassent part, mais à titre personnel, mais non reconnu comme étant quelque chose, comme tu dis, d'inscrit dans le marbre, là, je trouve que c'est une position très, très nette. Le gouvernement ne fuit pas dans cette affaire-là. Il rappelle qu'il y a des règles qui sont immuables et que si par contre certains souhaitent avoir à titre très personnel et d'une manière très limitée un petit peu de liberté avec ces règles-là, moi je veux bien, dès l'instant où elles ne sont pas...
Il faut que ce soit individuel.
Et qu'elles ne sont pas reconnues au niveau national.
Au moment où nous enregistrons, le 100e congrès des maires de France a lieu et tu m'as dit que tu serais cet après-midi à Paris pour... c'est la clôture de ce congrès ?
Non, c'est demain, la clôture est demain. Je sais que cet après-midi, il y a une intervention, président de la République, et donc par conséquent, j'essaierai d'être présent, mais pas forcément pour cette affaire-là, pour le fait de présence du discours du président. C'est important, mais c'est pas en tant que maire, c'est pas la chose qui me préoccupe le plus, c'est que je souhaiterais être présent sur des ateliers, certains ateliers, de pouvoir échanger aussi, entendre ce
avec
qu'il se dit et échanger avec les confrères. Souvent, ce type de rencontre permet de se retrouver, c'est dans notre vie de tous les jours. Professionnellement, on aime bien rencontrer des gens de la même profession à travers des colloques, etc., parce que c'est des moyens de rencontre et surtout des moyens d'échange.
Et donc, vous serez 15 000 participants sur les 36 000 maires et quelques qui restent en France.
La moitié, c'est déjà bien. La moitié, c'est bien.
Il y a beaucoup de monde. Donc,
oui.
Ça se passe où ?
Et le contexte est très particulier. C'est Porte de Versailles.
Porte de Versailles.
Le contexte est très particulier parce que c'est vrai que, entendez, François Baroin, le président de l'Association des maires de France, le dire, je le rejoins là-dessus, ce congrès se déroule à un moment donné où l'État, moi je ne veux pas être brutal parce que je ne pense pas, même si on a un président de la République qui n'a jamais eu de mandat locaux, je pense qu'il était suffisamment bien introduit dans ce milieu-là pour savoir comment cela fonctionne, mais je pense qu'on arrive à un moment où il y a quand même de la préoccupation au niveau des maires des communes, d'abord parce que je pense que la commune doit rester l'unité de base de l'organisation territoriale de notre territoire national. C'est dans la commune où on trouve le plus de proximité. D'ailleurs, nos concitoyens ne s'y trompent pas. Après, on plaît, on ne plaît pas, on se trompe, on ne se trompe pas. Mais quand on interroge nos concitoyens, ce qu'ils disent des élus, c'est que celui-là, quand je dis celui-là ou celle-là, le maire, je dis bien le maire, que ce soit monsieur ou madame le maire, on a en face de soi, on a quelqu'un avec qui on peut parler, quelqu'un
que l'on connaît,
qu'on puisse échanger. Au fond, c'est peut-être ça, l'humanisme, ça commence peut-être ici.
Eh bien, merci de cette conclusion, Alain. J'ai été très heureuse de te recevoir et tu reviendras dans nos studios du Rocas, bien sûr.
Bien sûr, et merci aussi à toute l'équipe de Radio Grand Ciel.
Au revoir, à bientôt.